Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, programme chargé s'il en est, on va parler de Rhythm Paradise Megamix, enfin, quelques semaines après sa sortie, quelques mois après sa sortie japonaise, parce qu'on est, on est exclu, voilà, on est loin de ce... C'est horrible, ça a été horrible cette attente. Bref, on va parler aussi... Bref, on va aussi parler de Civilization 6, de Sid Meier's Civilization 6, enfin aussi, et de Titanfall 2. Et puis aussi Monsieur Fall, le com des com, enfin vous connaissez le programme, le reste du programme. Mais je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Sophie Krupa du magazine JV, du podcast ZQSD et du podcast ABCD. Bonjour Sophie.
Bonjour, j'ai un nom, j'ai l'impression de faire partie de la royauté.
Oui, c'est vrai. Oui, ça fait des particules.
Des particules, ouais. C'est bien. Non, c'est cool, ça me plaît.
C'est bien, on va lancer cette noblesse. Corentin Benoît Gonin du journal du gamer et du podcast Passe le Stick.
J'ai moins de titres que Sophie, voilà. je suis tout aussi content d'être là.
Et Joël Métro, roturier. Voilà, et Joël Métro, roturier. Voilà.
Et Joël Métro, roturier, mais on y tient quand même. Voilà. C'est notre côté popu, hein, si on s'en joue, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. On commence avec toi, hein, Joël.
Oui,
Métro.
Joël Métro, voilà. Donc, oui, ce que j'ai noté là, cette semaine, c'est le lancement en fait, de Minecraft édition éducation. Voilà, édition éducation. Donc en fait, il y a quelques temps, ils avaient annoncé Microsoft, qui a acheté Mojang, il y a deux ans, j'oublie un peu.
Deux ans.
Voilà, avait annoncé.
Pour 2 milliards, hein, quand même.
Voilà. 2 milliards.
2,5
ouais. Je sais plus exactement,
voilà.
Mais
plein.
Bon, beaucoup d'argent. Et là, donc, en fait, ils avaient commencé à travailler sur un Minecraft qui s'adresse spécialement en fait, aux classes, aux profs, aux élèves. Donc c'est une édition dans laquelle, en fait, on va trouver des espèces de cartes avec des coordonnées pour permettre aux élèves, aux enseignants de se retrouver dans Minecraft. Il y a une espèce de configuration où tous les élèves à 40 peuvent se retrouver sur le même plateau. Il y a des cours aussi qui sont proposés, comme des cours d'architecture, des cours de sciences naturelles, il me semble, et aussi des méthodes d'apprentissage pour savoir comment recréer, par exemple, une scène favorite, je sais pas moi, de pourquoi pas de la princesse de Clèves. Pourquoi pas de la princesse de Clèves dans le jeu, voilà. Donc c'est plutôt une attention un peu assez sympathique, sauf que bon, il y a quand même un peu des mais, c'est qu'il faut déjà disposer d'un compte Office 365.
Le Office genre pour Word et Excel et Minecraft avec.
Voilà, c'est ça. Donc il va falloir payer ça. Donc c'est déjà un frein. Et l'autre frein, c'est que c'est seulement compatible avec Windows 10. Donc bon.
Non, c'est pas forcément super étonnant.
Donc voilà.
Mais
donc,
bon, après ça rappelle le partenariat assez scandaleux qu'il y a entre Microsoft et l'Éducation nationale en France. Alors sachant que Minecraft Éducation c'est un projet mondial, hein, ouais, ça ne concerne sûr, pas du tout sûr. Que la France. Mmh. Mais c'est, on sent aussi le côté cheval de Troie de Microsoft, parce qu'on sait très bien que imposer des logiciels Microsoft aux jeunes enfants, c'est le meilleur moyen pour asseoir leur suprématie dans les années qui viennent.
Mais ils le font aussi avec la défense, je crois, avec l'armée.
Ouais, mais après,
ils signent des contrats assez juteux avec. Voilà. C'est pas du logiciel.
Il y a eu un cache investigation là-dessus. C'est intéressant. mais voilà, il y a vraiment ce côté cheval de Troie qui saute vraiment à la gueule. Mais après, c'est moi, je me rappelle quand on jouait à l'alpha ou au début de la bêta de Minecraft, qui était cette espèce. Mais non, j'étais pas tout seul. Non, mais non. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer à cette période-là l'espèce de monument qui est devenu Minecraft et d'avoir des vidéos comme ça, des vidéos marketing signées Microsoft pour proposer Minecraft au système éducatif, je trouve ça complètement délirant. C'est pas si délirant.
Enfin, le Minecraft était déjà utilisé. En fait, ça comblait un besoin qui était déjà demandé, puisque le Minecraft était déjà utilisé à des fins éducatives par des profs un petit peu en avance sur leur temps. Finalement, Microsoft essaie simplement de donner les outils adaptés.
Oui, je trouve que c'est une bonne. Surtout
que la plupart du public pour Minecraft, c'est les enfants. Ouais. C'est un jeu qui ciblait pas du tout les enfants. Et tu vois, la plupart des enfants de primaire, je parle vraiment d'enfants, pas d'adolescents, d'enfants qui jouent à Minecraft, c'est plutôt malin de leur part.
C'est les Lego de cette génération. En fait.
Vous ne me verrez jamais dire du mal de Minecraft en tant que jeu. Je suis un fan absolu. Sophie, des nouvelles de Animal Crossing.
Animal Crossing New Leaf, ce jeu qui est sorti il y a 3 ans, vous vous souvenez? Sur 3DS, une mise à jour qui vient de sortir et qui s'appelle Welcome Amiibo. Alors, le nom, hein, incroyable, à votre avis, pourquoi? Oh mon Dieu, on va pouvoir jouer avec nos Amiibo.
Avec tous les Amiibo?
Alors, non, certains Amiibo, surtout aussi, ils avaient déjà sorti à l'occasion de la sortie de Animal Crossing Happy Home Designer, des cartes Amiibo, donc des Amiibo, mais sous forme plate, avec juste une puce à l'intérieur, qui permettait de mettre les personnages, donc ça devient compatible avec le jeu Animal Crossing, plus certains personnages, notamment le Link en loup, tous ces personnages-là, Splatoon qui peuvent s'intégrer du coup dans le jeu. Et donc la mise à jour gratuite 3 ans plus tard, c'est quand même un coup de génie marketing, enfin moi je trouve,
je sais pas si c'est un coup de génie
pour faire revenir, non mais tu sens que, comme on disait un peu en antenne, que les Nintendo et leurs équipes, c'est genre un petit peu, ils vivent dans un monde parallèle. Ah oui, là il y a le monde autour, il y a eux, vous vous souvenez, bah boum, on vous ressort une mise à jour
le monde est
après.
En flamme, on veut des infos sur la NX, on attend que ça, les mecs sont à la croisée des chemins. Les gars, on a une mise à jour gratuite d'Animal Crossing, on double le contenu, c'est gratuit.
La mise à jour a l'air cool, effectivement, nouveaux contenus, nouveaux modes.
Des mini-jeux. Et des gros mini-jeux. Hein. Genre, il y a un jeu de survie, gestion,
sur une île. Enfin, ça a l'air vraiment un truc assez conséquent. Je pense que ça va même relancer la machine. Possible, ouais. D'ailleurs, je peux adresser un message personnel aux gens qui ont cambriolé mon appartement il y a 2 ans. S'ils pouvaient me rendre juste la console collector Animal Crossing avec ma ville à l'intérieur, ce serait vraiment cool. Ouais. Mais non, c'est de voir. En plus, ils ont annoncé ça via un Nintendo Direct, évidemment. Hein, c'est Nintendo complètement barré.
Ouais,
c'est Nintendo.
Ce que j'adorerais, c'est rencontrer la costumière de Nintendo. Ou le costumier, peut-être. Parce qu'ils ont une espèce de mise en scène incroyable avec donc le personnage de Tota Keke, qui est donc un chien.
Surtout le producteur d'Animal Crossing et de Splatoon, qui est déguisé en hippie. Et qui est là en train de te présenter une nouveauté en parlant comme un mec d'Animal Crossing. Et
C'était complètement surréaliste. Moi, ça m'éclate et j'aimerais bien.
C'est un bon moment.
Ouais.
Non, mais en plus, en même temps, tu comprends, parce que Nintendo, quand tu vois leur campagne publicitaire à la télévision, c'est que des jeux qui datent de 1, 2, 3 ans. Il continue à y avoir des pubs pour la Wii U en ce moment, Splatoon, pour machin. On trouve encore des pubs comme ça.
Nintendo, je pense, a gardé ses habitudes de la Wii qui consistait en fait, et de la DS, ils ont des jeux qui se vendent sur le long terme plus que sur le court terme.
Voilà. 3 ans après la mise à jour.
Mais à mon avis, c'est aussi un mouvement commercial dans le sens où, avec Dena, ils vont sortir un free-to-play Animal Crossing qui sortira sur mobile, je crois pas en fin d'année, mais l'année prochaine. Donc peut-être que remettre Animal Crossing à l'agenda, tout ça, ça peut être une bonne idée pour redonner envie aux gens, refaire parler du jeu.
Parce que le home designer qui est sorti l'année dernière,
c'était pas bon. Ils savent qu'on n'y a pas joué depuis 2 ans et ils proposent notamment de revendre sa ville, donc qui a été laissée à l'abandon, tout le monde s'est barré de ça. On peut revendre sa ville pour une grosse somme d'argent et faire un New Game Plus avec les poches remplies, avoir la grosse maison immédiatement. Et moi, typiquement, j'ai lâché ma partie et là, je suis tenté du coup de revendre ma ville et redémarrer enfin de redémarrer de nouveau avec de l'argent, quoi. C'est plutôt cool.
Mais Civilization 6, tu peux pas. On va en parler. D'ailleurs, Corentin, des nouvelles de Steam, ouais, et notamment de ces concept art qu'on trouve, ouais, dans les descriptions de jeux, et il n'a plus le droit.
Donc en fait, Steam là va procéder dans pas longtemps à une grosse mise à jour du magasin. Donc a priori, on devrait le voir dans quelques semaines, une à deux semaines, je pense, enfin deux à trois semaines plutôt. Les développeurs sont au courant. Il va y avoir une, ça va changer quand même, parce que mine de rien, la gueule du magasin Steam, on la connaît depuis un moment. Elle a pas trop bougé. En tout cas, ça fait longtemps qu'elle a pas évolué. Ouais. Et donc Steam en profite en fait pour resserrer un peu les vis auprès des développeurs qui ont la fâcheuse tendance à mettre des screenshots, on va dire, pas forcément contractuels par rapport au produit qui est vendu au final. Et du coup, ils demandent, voilà, aux développeurs, mettez bien des screenshots de la version que vous vendez de votre jeu, c'est important. Donc vous ne mettez pas ni de texte, voilà, juste du texte avec les récompenses que vous avez. Ça, vous avez une partie récompense, vous mettez dedans. On ne veut pas de concept art, on ne veut pas d'artwork, de screenshots issus de cinématiques pré-rendues. Mmh. Voilà, vous mettez des screenshots uniquement. D'ailleurs, Steam arrive et dit, alors il le dit aux développeurs uniquement, mais ça a été fuité, et Valve a dit oui, on a vraiment dit ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez le savoir. Et ils se prennent eux-mêmes en exemple en disant, regardez Dota 2. Et bien Dota 2, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et les mecs se disent, du coup, on va la changer nous-mêmes. Regardez, nous-mêmes, on n'était pas clean, donc regardez, nous, on va faire comme ça. Voilà, ils ont laissé deux trailers et le reste, c'est que des screenshots. Et ils essaient de montrer l'exemple aussi par rapport à leurs propres mauvaises habitudes qu'ils vont essayer de corriger.
J'ai hâte de voir la nouvelle version du shop.
Quand même, bon,
parce que c'est, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est quand même pour le, par exemple, pour la scène indé, la home de Steam, c'est un truc monumental. Enfin, on sait que si on y est, on s'en sort. Si on n'y rentre jamais, ouais, ça va être un petit peu compliqué,
c'est
quand
ça.
Même. C'est,
bon,
et donc, le fait de pouvoir peut-être présenter plus de jeux, plus de nouveautés, en fonction des. Peut-être personnaliser le truc, j'en sais rien. Enfin, c'est...
Et je pense qu'ils ont fait ça aussi par rapport aux screenshots, c'est que récemment, donc, il y a eu No Man's Sky qui a connu plein de déboires, notamment avec. Voilà, il y a plein de joueurs qui ont dit oh là là, vous nous avez menti, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que les screenshots qui étaient affichés sur Apache Team, notamment, étaient des screenshots peut-être issus de. Vous savez, ces présentations qu'on a vues lors des présentations PlayStation et qui étaient évidemment embellies, qui ne représentaient pas nécessairement ce qu'on a vu dans le jeu.
Moi, je suis pas persuadé que ce soit les screenshots dans le magasin Steam qui soient le principal problème.
Mais par contre, la conséquence de ça, c'est que là, il y a un organisme anglais des publicités qui a épinglé Valve et Hello Games en leur disant vos screenshots là que vous avez sur la page Steam ne correspondent pas du tout au jeu, donc voilà, donc Valve il a pas envie d'être mêlé aux conneries d'Hello Games, donc il a dit bon, à partir de maintenant vous mettez des screenshots du jeu une fois qu'il est sorti et du jeu vraiment. Je pense que ça a dû jouer dans la décision de Steam de resserrer les vis.
La semaine dernière, nous étions en vacances, enfin moi oui. Vous, je sais pas, hein, mais moi, oui. La semaine dernière, j'étais en vacances, donc c'était il y a deux semaines. Il y a deux semaines, où nous parlions de plein de choses, mais nous avions évoqué la Nintendo Switch. Mm-hmm. Évidemment, ça a été l'unique sujet discuté sur les forums de Silence On Joue, hein, le forum officiel de Silence On Joue. On va commencer avec Jérémy Israël, où je disais que je trouvais ça un peu stupide de mettre la promenade du chien en avant pour jouer à sa console. Et non, et Jérémy Israël... voilà, il a eu le droit à des problèmes. Et mon chien a eu le droit à des promenades épiques et interminables lorsque je jouais à Persona 4 sur Vita.
Mais oui,
quel bonheur de pouvoir s'extirper d'une maison pleine de gosses et de jouer en nomade avec comme excuse le chien qui doit aller faire pipi. C'est particulièrement adapté au RPG tactique. Voilà, on a l'explication quand même. Moi, ça m'intéresse. En ce qui concerne Mafia 3, oui, parce qu'on parlait aussi de jeux vidéo. Hein. Oui, le jeu est moche, il est aussi violemment répétitif, c'est pauvre en contenu et ça bug, mais bon, dans l'ensemble, je trouve le jeu reposant, en fait, on réfléchit pas trop, il y a quand même pas mal de références historiques intéressantes, et puis surtout, la musique est top, on peut peut-être mettre ça sur le compte de mon humeur du moment, mais moi, j'ai bien aimé Mafia 3, je vais sans doute le finir, c'est un simple apéro, en attendant les vrais bons jeux de sa catégorie prévue pour la fin de l'année, et l'apéro, on est d'accord, c'est important.
Je sais pas où il voulait en venir. D'accord.
Roger Hanin, qui nous dit Nintendo...
Hein?
Oui, c'est l'acteur.
C'est Navarro, oui,
j'ai vu. Sur Internet, ça s'appelle les pseudos. Nintendo n'a...
Alors, vous n'avez pas compris, vous êtes nuls.
Ah oui, donc...
Vas-y, je te veux.
Nintendo n'a jamais mis en avant... Là, on revient sur la Nintendo Switch. Hein, n'a jamais mis en avant les éditeurs tiers dans sa com Nomad, contrairement aux consoles de salon, où dès la N64 avec Rare, ou la GameCube avec Capcom, ou la Wii U avec Batman et Bayonetta, il fallait annoncer que d'autres éditeurs allaient envoyer du jeu. Mais dans les faits, Nintendo n'a jamais eu besoin des éditeurs tiers. Les meilleures ventes sont toujours des jeux Nintendo sur leur plateforme, et ce depuis le début. Et je cite ce commentaire parce qu'il y a quelques chiffres que je trouve assez représentatifs. Sur les meilleures ventes de la 3DS, sur les 10 meilleures ventes, c'est 10 jeux édités par Nintendo. Sur les meilleures ventes de la DS, c'est 10 jeux édités par Nintendo. Sur les meilleures ventes de la GBA, c'est 8 jeux édités par Nintendo sur les 10. Sur les meilleures ventes de la Game Boy, c'est 10 jeux édités par Nintendo sur les 10. Sur la Wii U, c'est 10 sur 10. Sur la Wii, c'est 9 sur 10. Avec
Ubisoft, je suis sûr.
Just Dance, Ubisoft en 10e hein, quand même. Il a réussi à se
faufiler. C'est le seul éditeur qui a réussi à être profitable sur Wii avec Nintendo. C'est simple.
Sur GameCube, c'est 9 sur 10 avec... Bon, moi, c'est salaud. Sonic Adventure 2 Battle hein, en numéro 7. Voilà.
Okay.
Sur la N64, c'est 10 sur 10. Sur la Super NES, c'est 8 jeux sur 10, à part Street Fighter 2 en 5 et Street Fighter 2 Turbo en 9. Et sur la meilleure vente NES, c'est 10 jeux sur 10 de Nintendo. Alors, autant vous dire que c'est vrai que ça se cote un petit peu.
Après, est-ce que prendre juste les tops est intéressant? Enfin, je pense que même les éditeurs tiers sur, je sais pas, la Super NES, ça, ils ont dû faire quand même des gros chiffres.
Bien sûr, et puis sur des consoles comme la DS qui s'est vendue à 150 millions d'exemplaires, même si on n'est pas dans les 10 premiers, on arrive quand même à en vendre.
Nintendo reste un géant qui produit quand même une sacrée quantité de jeux par an, faut jamais oublier ça.
Tout à fait. Ouais. Enfin, Nico Brocchi qui nous dit « Pour ma part, je ne suis pas un inconditionnel de Nintendo, même si j'ai grandi avec toutes les consoles. Pour ma part, donc, dès que j'ai vu la publicité qui a été diffusée sur la Switch, j'ai tout de suite été emballé. Pourquoi, me direz-vous ? Tout simplement parce que depuis un bon moment déjà, je rêvais d'une console portable qui aurait des jeux identiques aux consoles de salon, et Nintendo nous sert ça sur un plateau. Je ne joue pas énormément aux jeux de consoles de salon, mais dès que je suis en transport en commun ou en vacances, j'aime bien jouer à des jeux pour passer le temps et sortir sa tablette pour avoir une vraie expérience de jeu avec des vraies manettes sans avoir à trouver une télévision pour pouvoir brancher tout le bazar. Moi, je trouve ça beaucoup moins contraignant, aussi bien au niveau du transport que de l'organisation que ça implique, sans parler du fait qu'on, quand on est dans une location, il y a quasiment tout le temps une seule télé. Alors qu'est-ce qu'on privilégie, hein, la console ou la télé? Si on est tout seul, ça ne pose pas de problème, et quand on est en famille, c'est autre chose. Alors oui, jouer tout seul quand on est en famille, il y a plus convivial, mais voilà, quand l'un veut regarder le dernier Stallone et l'autre jouer à Super Mario, avoir un deuxième écran, ça prend tout son sens. Voilà, c'était juste pour l'aspect pratique de la chose.
Surtout que j'ai cherché dans le métro, j'ai pas trouvé de télé en ce qui me concerne.
C'est vrai?
Non. C'est bête.
Il n'y a pas de prise non plus.
Non.
J'attends surtout de voir l'autonomie.
Oui, voilà.
C'est surtout ça, l'autonomie.
C'est un peu ça le problème. Bon, eh ben, on va commencer quand même le programme, hein, parce que c'est pas tout ça, mais il y a... Allez, Rhythm Paradise Megamix. On écoute. Ready. Rhythm Paradise Megamix, pardon, j'étais en train de danser, je suis en retard, voilà, ou Rhythm Tengoku The Best Plus. Tu peux le faire avec
The Best Plus.
Voilà. Ou Rhythm Heaven en anglais, hein, voilà, pour avoir les trois noms.
Non, c'est comme Hangover qui devient Very Bad Trip. On ne sait pas pourquoi ils changent les noms anglais pour d'autres noms
avec
anglais.
Avec un autre sens de Heaven et Paradise, mais bon,
voilà. Je pense que ça ressemble plus à Paradis ou des mots en français, italien, espagnol.
Bref, je ne comprends pas. Mais bon, bref, c'est pas grave. Rhythm Paradise Megamix, qui est donc un Megamix des Rhythm Paradise.
Oui, bah c'est ça, c'est un énorme best-of.
Un lancement, comme on n'en fait plus quand même. Hein.
Non, mais c'est un gros best-of, parce qu'en fait, Rhythm Paradise, c'est une série qui a commencé sur GBA, donc il y a eu plusieurs épisodes. Jeu GBA d'ailleurs qu'on n'a pas eu chez nous,
non.
Donc il y a quand même une autre.
On a commencé avec les versions DS.
Voilà, on a commencé avec les versions DS qui, je pense, n'a pas trop marché. Je pense que c'est une série quand même qui est assez confidentielle malgré tout.
Je crois que j'ai perdu ma vie sur la version DS. Mais par contre, j'ai eu les 3 étoiles ou les max d'étoiles partout. J'avais
pareil,
tout fini. Quoi.
C'est les... un truc de... Ça fait partie des rares jeux que je 100% aussi.
Je crois que c'est le seul d'ailleurs, de mémoire.
Et donc il s'agit d'un jeu de rythme, sauf que contrairement au jeu de rythme, on va dire classique, dans lequel une déferlante de notes dans les niveaux difficiles vous tombe dessus, vous devez à la guitare électrique avec des joues en plastique. Là en fait, on vous demandait de faire quelques notes, enfin quelques rythmes bien placés, mais il faudra être très précis dessus. Il faudra pas se planter, il faudra être réactif.
Ah, bah, on sent
la frustration quand même. Voilà.
Donc, c'est à base de petits jeux, un petit peu à la WarioWare, si on veut vraiment comparer. D'ailleurs, je crois que c'est le même, studio.
SPD, ouais.
Absolument. SPD. Et moi, j'adore leurs jeux, donc ça tombe bien.
Takeshi.
Très bien. Il y en a qui a fait cette voir, c'est bien. Et du coup, voilà. Donc, c'est toujours des situations très absurdes, comme par exemple, je sais pas, je vois à l'écran un ours qui coupe du bois, ou bien un caméléon qui mange des petits insectes en rythme, ou bien une petite idole japonaise, donc une jeune adolescente qui chante des chansons d'amour sur une scène avec des singes qui constituent son public et qui a dans les mains en rythme sur certains signaux. Et du coup, tous les jeux en fait va vous inculquer, on va dire, des notions de rythmique et de solfège, mais avec des signaux et en fait instinctivement, ensuite nous on va appuyer sur les boutons en rythme comme il faut. Et ça c'est particulièrement jouissif en vrai parce que les musiques sont super.
Très rythmées,
L'humour est absurde et en plus c'est un des rares jeux qu'on peut presque faire les yeux fermés, donc ça c'est plutôt pratique quoi.
C'est d'ailleurs un point assez intéressant dans les Rhythm Paradise, c'est que finalement on le fait mieux les yeux fermés.
Alors pas tous les jeux, il y a certains jeux dont les signaux sont visuels. J'ai pas d'exemple en tête là.
Les sauts d'obstacles par exemple, c'est vrai que pour se préparer c'est quand même un peu mieux.
Voilà, c'est mieux de voir à l'avance, mais du coup,
le remplissage de robots.
Oui, on peut le faire les yeux fermés. Oui, si c'est un gros robot.
Celui-là, pour pas le faire les yeux fermés, c'est chiant parce qu'en fait, on voit le remplissage de robot et on appuie toujours au mauvais moment parce que si on regarde le truc, ça nous apporte pas d'informations.
Et donc ce principe-là de remplir comme ça avec des mini-jeux, c'est super cool. D'autant qu'à la fin de chaque série, on va dire, au bout d'un moment dans le jeu, parce que le jeu en lui-même a 108 épreuves issues, donc soit sont inédites pour, on va dire, à peu près environ un quart d'entre elles, soit viennent d'anciens épisodes. Et à la fin de certaines séries, en fait, on a même des remix absolument dingue qui mélange tous les jeux en même temps dans un gros remix. Et là, vous devez vous souvenir de toutes les règles précédentes des mini-jeux, mais c'est jouissif parce qu'on n'a pas besoin de vous réexpliquer les règles, ça revient naturellement et le but, c'est d'appuyer au bon moment et d'être parfaitement dans le rythme. Et par rapport aux anciens épisodes, ce qui est cool, c'est qu'ils ont rajouté un petit, on va dire, indicateur visuel sur l'écran du bas qui vous indique si vous êtes trop tôt, trop tard ou bien pile poil au bon moment. Et ça aura même son importance sur, on va dire, ça, une note particulière dans un mini-jeu qui vous permet de gagner une étoile. Mais là, il faut être précis. Si vous êtes un peu trop en retard, un peu trop en avance, vous pouvez valider la note. Mais si vous n'êtes pas pile poil dessus, vous ne gagnez pas l'étoile. Et les étoiles sont à collectionner. Le genre de complétionnisme habituel qu'on peut avoir dans ce genre de jeu. Pour Mega X.
Tu vas y revenir, mais Sophie.
Mais moi, j'avais jamais joué à aucun jeu de la série. C'est le premier auquel je vais jouer.
Un choc.
Oui, non, c'est vrai que ça. Par contre, je connais pas mal les WarioWare. C'est vrai que ça m'a beaucoup rappelé WarioWare. Et moi, je trouve ça assez marrant, mais je suis pas assez précise. Donc, mais ça m'entraîne parce que je raconte un petit peu ma vie. Je viens de commencer à prendre des cours de batterie.
Oh là là.
Depuis la rentrée là. Et mine de rien, ça aide à travailler la précision. Donc,
Pour le coup, pour le rythme, c'est. Ouais. Mais après, il y a quand même des épreuves. Je sais pas si il y a des épreuves où en fait, parce que. Grosso modo, il y a la musique qui a un certain rythme, un certain nombre de temps. Et ensuite, il y a les indications sonores de quand est-ce que tu dois, quand est-ce que tu dois frapper. Le problème étant, quand les indications sonores arrivent à contre-temps, parce qu'il y a certains niveaux qui arrivent ça devient atroce, en fait.
C'est...
Mais exactement. Et c'est-à-dire qu'il faut que, justement, tu mettes ton cerveau dans une position précise pour décaler ton machin d'un...
C'est vrai, tu parles des contre-temps, c'est ça. C'est que, par exemple, si on a la rythmique, souvent, en fait, pour beaucoup de jeux, il suffit de reproduire ce qu'on vous donne. Par exemple, on va vous faire... Et là, il faut faire tac, tac, tac en appuyant sur le bouton. Mais des fois, il va vous le faire en contre-temps. Alors, votre cerveau qui est habitué à l'entendre en rythme, c'est vrai qu'il va être un peu troublé.
Il va faire un « et » tchac, et toi, tu fais « tap » après.
Du coup, il faut... moi, je donne les conseils. Il faut bouger la tête, il faut se donner
l'énergie. C'est ça, exactement.
Il faut compter à voix haute. T'as l'air idiot, mais bon, ça marche mieux.
Taper du pied, ça marche.
Ça aide beaucoup.
Comme quand on apprend la batterie, c'est pareil. Il faut compter à haute voix.
C'est sûr que ça aide. Et moi, je trouve ça très bien parce que finalement... ça te fait apprendre un peu le solfège sans une seule note écrite de manière normale, classique. Et le tutoriel est très bien fait d'ailleurs, parce que quand tu démarres un jeu, donc il y a une petite phase de tutoriel où on t'apprend soit tout le mini-jeu, soit la partie nouvelle, parce que les mini-jeux évoluent au fur et à mesure qu'on avance. Et en fait, ils te font répéter jusqu'à ce que ça rentre et après ils te balancent en condition. Mais si tu n'y arrives vraiment pas sur l'écran du bas, ils t'indiquent un petit schéma assez bien fait qui t'indique à quel moment il faut appuyer ou à quel moment il faut maintenir, relâcher, appuyer sur B. Enfin, il y a plusieurs.
Et puis vous avez oublié de mentionner que tout ça est relié par une histoire. Ah bah si,
oui, alors, il faut arriver
à ça. Il y a
une petite
histoire, il y a une petite histoire sympathique. Voilà, non, mais une histoire qui n'a ni queue ni tête, qui est pas très intéressante. Moi, c'est le jeu vraiment que je déteste. Enfin, vraiment, je déteste ce genre de jeu. Je trouve sous des airs un peu sympathiques, je trouve que c'est un jeu mais humiliant au possible. Non, mais c'est vrai, c'est assez humiliant.
Il est difficile.
Ouais. Alors, non seulement donc, je trouve ça assez casse-pied, mais en plus, je trouve ça assez cauchemardesque. Quoi. C'est un surréalisme que je trouve un peu morbide, en fait, tout au long du jeu. On peut trouver ça mignon, moi, je trouve ça assez...
Je pense qu'on peut,
ces personnages, ils sont tous un peu...
C'est le côté un cartoon peu... qui te maltraite comme ça.
Peut-être. Ouais. Je trouve ça pas très agréable quoi du premier abord. Non, pas vraiment quoi. Enfin, moi, des robots qui se remplissent de liquide. Et... je sais pas. Mais ça ressemble à des cauchemars ou des espèces de fruits des légumes qui dévalent des escaliers. Enfin bon, je sais pas. Ça me laisse vraiment pantois. Moi, je reste complètement à côté quoi des Rhythm Paradise. Voilà, le Megamix et le précédent aussi. Ça m'était un peu tombé des mains quoi. Le rythme dans la peau et non.
Et donc faut préciser que le jeu donc est un gros best-of, donc il y a un quart seulement des jeux qui sont nouveaux. Donc dans le cas par exemple de Sophie qui est complètement néophyte sur la série, c'est parfait parce que comme ça elle peut un peu goûter à tous les épisodes. Et il faut noter aussi que donc il y a les mini-jeux de la GBA qui sont inédits chez nous. Donc on peut considérer que un peu moins de la moitié des mini-jeux, en vrai, on n'a pas pu y jouer par des moyens légaux, évidemment. Ceux qui sont vraiment fans de la série ont dû y jouer sous émulateur à la version GBA. Mais bon, c'est à noter pour ceux qui ont joué aux épisodes précédents. Vous allez rejouer à beaucoup de jeux que vous avez déjà fait, refait d'un point de vue graphique et compagnie. Mais malgré tout, ça reste les mêmes mini-jeux.
Ouais, et bon, mis à part, oui, donc cette histoire qu'il faudrait pouvoir passer, parce que c'est vrai que l'Horizon Paradise, en tout cas l'original, le but du jeu, c'est d'avoir son catalogue d'épreuves et d'essayer de débloquer le max d'étoiles sur chaque épreuve et ne pas avoir à passer.
Surtout qu'elle est inskippable, quoi, c'est insupportable. Et c'est pas intéressant ton histoire, Tibi,
je suis
désolé.
Non, parce que voilà, et on sent bien qu'ils ont essayé de donner ce côté un peu absurde, surréaliste, bizarre.
C'est drôle, mais c'est trop long.
Ouais, mais c'est pas drôle parce qu'on s'en fou parce que c'est là pour nous embêter quoi, c'est là vraiment pour nous poser des problèmes.
Ils ont vraiment rempli ils ont coché la croix, mettre une histoire dans
le jeu, c'est vraiment le vrai problème. Après moi je sais que déjà retrouver des années plus tard les jeux de Rhythm Paradise, moi ça a été à chaque fois c'était les grenouilles, enfin c'est... non mais j'étais là, j'étais comme un fou, enfin ça m'a rappelé quand on a passé autant de temps, ça marque.
Ah oui, et puis il faut noter aussi qu'ils ont rajouté quelques petits jeux multijoueurs. Enfin, il y a un mode défi en fait où on peut enchaîner des mini-jeux à plusieurs. Ce que toujours à noter, c'est sympa de pouvoir essayer de se liguer ensemble contre une série d'épreuves avec des petites conditions de victoire particulières du style le jeu va deux fois plus vite. bonne chance. Voilà. Mais on peut se faire aider par son pote qui est super fort en batterie, par exemple.
J'ai dit que j'étais débutante. Hein.
Et une seule cartouche pour 4 joueurs. Moi,
oui, c'est déjà pas mal. C'est bien. Rhythm Paradise Megamix sur la 3DS. Allez, c'est le moment d'aborder le gros morceau. Le gros morceau de cette émission et le gros morceau peut-être de l'année pour certains, parce que c'est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, et il y a certains qui vont ressortir de leur maison, on sera en mars. C'est ça. Il faut y penser à ça. C'est bien sûr Civilization 6. You're plotting a new course again, aren't you? The currents before us are ever changing. We must adapt, press forward, if we are to see our journey's end. And how will we know when we get there? Civilization 6, Civilization 6 de Sid Meier, Civilization 6 de Firaxis, bon, même si Sid Meier, voilà, non mais c'est, un, c'est une marque, c'est une marque, c'est une marque, ce monsieur.
C'est comme Tom Clancy.
C'est ça. Non, c'est non. Plus lié aux jeux vidéo quand même. C'est... Franchement, arrête, arrête. Ne dis pas des bêtises comme ça. La référence des 4X qui revient après un Civilization 5 plus moyen que d'habitude, on va dire.
Oh, non, avec les deux DLC, voilà. Il était vraiment très complet. Avec...
Voilà. D'accord.
Je passe une demi-heure sur Civilization 5. on va attaquer Civilization 6.
Bon, non mais je vais laisser la parole à Sophie parce que Sophie, elle a accepté d'arrêter sa partie, de se mettre en, pas mettre en pause parce que c'est tour par tour, mais
juste
voilà
pour venir ici.
Juste pour venir ici.
Entre... Si on pouvait se dépêcher de finir parce que bon, j'ai des barbares qui m'attendent. Non mais oui, Civilization, c'est le parangon du one more turn, du jeu que tu peux pas, tu ne peux jamais arrêter, t'as toujours envie d'aller au bout. Et Civ 6 repart sur. Sur des bases assez nouvelles, rechange pas mal de trucs. Enfin, à titre personnel, moi, j'ai découvert Civilization avec le 5, justement. Si décrié, que moi, j'ai, pour le coup, comme c'était le premier, j'avais pas de comparaison. La plupart des fans étaient fans du 4 et il y a beaucoup de gens qui ont râlé quand le 5 est sorti.
Mais moi, j'ai entendu les gens râler. Hein,
mais à juste titre, je trouve qu'avec les deux DLC, c'était un très, très bon jeu. Et là, donc, du coup, a priori, je pense que le 6 plaira beaucoup à ces mêmes personnes qui n'ont pas aimé quand le 5 est sorti, pour le coup qui apporte énormément de nouveautés et un niveau de précision dans la micro-gestion qui est juste incroyable. Donc je ne sais pas si on détaille exactement toutes les nouveautés, mais il y a surtout la nouveauté la plus importante, c'est la gestion des quartiers.
Ouais.
Donc là où avant une ville occupait une case, donc c'est un jeu qui se passe sur une carte découpée en cases, chaque ville occupait une case et à partir de celui-là, en fait, il va falloir développer les quartiers.
Elle avait déjà une influence sur plusieurs cases autour, c'est-à-dire qu'elle pouvait exploiter les cases autour.
Oui, des cases de ressources, de matières premières, de nourriture. Mais là, vraiment, si tu veux construire des bâtiments qui concernent la culture ou la science ou la religion, ce sera vraiment des cases qui seront dédiées et des quartiers à construire. Faudra bien les construire à un bon endroit assez stratégique puisqu'il y aura différents bonus. Enfin, c'est un truc hyper... Donc, que tu peux rester maintenant 2 heures en train de dire alors si je mets ça là mais dans 1000 ans je construirai un truc là il y a une rivière selon le sens du vent c'est enfin moi je trouve ça assez fou dans le sens où Civilization enfin c'est tellement un enchevêtrement de plein de micro management que si tu bouges un petit truc quelque part ça aura des conséquences partout et là de voir avec quelle maestria c'est géré justement toutes ces gestions, toutes ces micro-mesures, c'est assez incroyable.
Je rappelle juste en 2 mots pour les 3 personnes hein, qui nous écoutent, qui ne sauraient pas à quoi ressemble la civilisation. Hein. Là, on commence en moins 3700 avant Jésus-Christ, quelque chose dans le genre, et on va jusque dans le...
C'est un jeu de stratégie. Jeu de gestion. J'irais plutôt stratégie. Quoi.
Oui.
Tour 4X, par tour.
C'est explore, donc... expand, exploit et exterminate. Voilà. Hein, donc il y a de la guerre, il y a de l'exploitation, il y a de l'exploration, tout ça.
Non, enfin moi je suis. Je suis fasciné par cette. Alors moi j'ai commencé Civilization au 4 en fait. Au 4, je trouvais que le 5 était très bien donc avec ses DLC.
Je crois que je vais faire mon vieux, hein, mais moi j'ai. Oui. Ouais, mais en fait, Civilization, c'est mes premières nuits blanches de jeux vidéo. C'était Civilization 1. C'était Civilization 1 de mémoire comme ça. Hein. Je sais pas, mais on devait être en 80. J'ai pas la date là, mais on devait être en 93 ou 92, 93, 94. On sait pas vu que j'étais étudiant. Et c'était mes premières nuits blanches. Mais c'était les premières fois où vraiment je regardais par la fenêtre de ma chambre d'étudiant et tiens.
Ah, le jour s'est levé.
Il fait jour. Ah merde, il fait jour. J'irai pas en cours encore demain, aujourd'hui.
C'est sûr, Gandhi était un tyran sanguinaire, c'est ça?
Bah oui, il pouvait devenir un tyran sanguinaire.
C'est à cause d'un bug, en fait. Il avait son pacifisme qui faisait un underflow. Il passait sous zéro et du coup, il allait à 255.
Je me rappelle pas de ça précisément, je veux dire, mais c'était vraiment.
C'est un truc. Moi, ce qui me fascine, c'est cette faculté qu'ils ont de rebattre les cartes. Quoi. C'est-à-dire, ils ont le 4, le 5. Puis après, ils recommencent. C'est comme s'ils recommençaient tout. Ils rebattaient les cartes pour faire un jeu, effectivement, comme tu le soulignais, où on peut s'amuser avec tellement de paramétrages que ça en devient fascinant. Donc là, maintenant, il y a 4 types de victoires qui sont possibles. Victoire religieuse, victoire culturelle, victoire scientifique et militaire. Celle qui, en l'occurrence, au départ, était, je crois, au début...
La victoire standard.
Voilà, la victoire standard.
Et c'est vraiment... Il y a toujours eu la vecteur scientifique. Hein. Il y a toujours eu envoyer
la fumée, la fumée, la fumée.
C'est la première fois. Ouais. C'est la première fois qu'il y a la vecteur religieuse.
J'ai un doute déjà.
C'est la première fois parce que là, c'est avec une nouvelle règle. Il faut donc imposer sa religion
à toutes les autres villes.
À la majorité, à plus de 51% de la population.
Il y avait déjà la religion dans le 5, mais c'était un outil. Ça servait beaucoup de levier à d'autres. Voilà. Surtout pour la victoire diplomatique, en fait. Qui, là, pour le coup, a disparu. Il n'y a pas de victoire diplomatique dans le 6.
Pas encore. Mais du coup, c'est vraiment un jeu, mais c'est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, on passe beaucoup plus de temps à... En fait, on décortique le jeu. On décortique, on essaie de voir, mais comme tu dis, sur quel levier on va pouvoir appuyer pour effectivement avoir, davantage d'unités, pour avoir, une belle université. Enfin, c'est vraiment... Mais c'est magnifique, c'est fantastique, cette infinité de jeux, de parties qu'il y a derrière. Puis effectivement, on y passe des heures et des heures dessus.
Parce que c'est ça, parce qu'avec, il y a 20 dirigeants possibles, donc 20 factions à choisir, il y a 4 victoires. Et avec ça, tu peux faire un nombre infini de parties, il n'y en aura aucune qui ressemblera à une autre.
Jamais.
Et j'ai pu en enchaîner plusieurs comme ça. Tu te retrouves jamais dans la même configuration. Enfin, c'est assez incroyable, la diversité et la variété.
Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont gardé les cités-états aussi.
Oui.
C'est
les états-cités,
je ne sais plus. Qui étaient apparus dans le 5, qui étaient donc ces espèces d'enclaves, de cités, Genève, qu'on peut décider soit de conquérir, soit de s'allier, de s'allier avec pour prendre leurs ressources, pour asseoir leur influence.
Oui. Ouais. C'est souvent les premiers partenaires commerciaux avant de rencontrer directement la reine Victoria.
Surtout des barbares, d'ailleurs. Ils sont plutôt sympas en début, les autres civilisations.
Mais donc, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on a vraiment effectivement, les changements, on s'en aperçoit, mais c'est des partouches. On s'aperçoit petit à petit des petits changements. Alors, par exemple, il y en a un qui est... il y en a un que j'aime bien, c'est que le fait de... Alors, c'est un petit changement, c'est le fait que les unités militaires, à un certain moment, peuvent se combiner ensemble. Ouais. Parce que donc, depuis le 5, plus possible, en fait, de mettre sur... Plus possible de faire une pile, de chevaliers... de faire une pile de chevaliers. Maintenant, c'est des unités,
unité par case.
Ouais. Et là, on peut effectivement combiner certaines unités militaires pour avoir une espèce de régiment,
pour avoir plus grand chose. Bâtisseurs aussi, avec mettre des unités militaires pour protéger.
Ouais, ça, c'est bien l'escorte.
Les bâtisseurs, nouveau aussi. Oui. Avant, on laissait. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait avant, on les laissait les bâtisseurs, en fait. On laissait l'intelligence artificielle se débrouiller toute seule pour qu'ils aménagent les routes.
Et maintenant, besoin au début, puis après.
Et maintenant, on va les mettre sur des tâches bien précises.
Parce qu'ils dirigent, en fait. Il faut leur dire, tu vas sur cette case et tu construis tes
bâtiments. C'était déjà le cas avant, mais ce qu'il y a, c'est qu'avant, un bâtisseur pouvait être utilisé un nombre incalculable de fois.
Là, c'est trois fois.
Donc, il faut bien. Tu dis, alors d'abord, est-ce que je vais aller chercher des cailloux ou des bananes? Non, mais ça paraît anodin.
Et puis quand même, au début du jeu, il te faut 12 tours pour faire venir ton bâtisseur et construire 3 pauvres trucs, il a disparu. Moi, j'avais pas bien lu au début, j'étais un petit peu déçu.
Ça rajoute vachement de gestion, parce qu'avant, effectivement, en début de partie, tu avais besoin d'énormément de bâtisseurs, que tu finissais par exterminer en fin de partie, parce que tu n'en avais plus besoin. Et donc, la ressource n'était pas très bien gérée. Là, je trouve que c'est brillant.
Si ton bâtisseur meurt, tu...
Il a une valeur.
Il a une valeur. Autre changement, je trouve, assez bon, c'est le... nouveauté, c'est que donc, il y a à chaque tour, donc pas à chaque tour, mais on oriente sa civilisation vers des recherches technologiques. Et là, recherche technologique, et là, ils ont ajouté, en fait, ça s'appelle des dogmes. Et là, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, les dogmes, c'est compliqué à expliquer. C'est un peu compliqué
à expliquer.
C'est pointu,
ouais.
Féru ou à fond dedans.
On est perdu.
Les dogmes. C'est-à-dire qu'on va avoir des espèces de... C'est marrant, ça ressemble un peu à des cartes à jouer, d'ailleurs, graphiquement.
C'est présenté comme des cartes à jouer.
Les dogmes, on va choisir son gouvernement, et à l'intérieur, il va y avoir des dogmes à la fois militaires, économiques, diplomatiques. Et on va pouvoir régulièrement jouer avec ça, décider, par exemple, qu'un espion, qu'on veut produire plus rapidement des espions.
Vous gagnez plus de bonus dans tel ou tel...
En fait, pour l'expliquer plus simplement, c'est on a des slots où on met des cartes à l'intérieur qui ont un effet. Et en fait, chaque politique, par exemple, un gouvernement très autoritaire et de ça aura beaucoup plus de slots militaires que de slots scientifiques.
Économiques ou inversement. Et avant, donc ça, et là maintenant, donc ces dogmes se débloquent via un arbre. Donc il y avait l'arbre des technologies, et maintenant il y a l'arbre des dogmes, ces deux arbres qui fonctionnent en parallèle. Moi, il y a une nouveauté, pareil, une micro-nouveauté que j'adore, c'est avant les routes, pour construire des routes entre des villes, c'était du coup nos fameux bâtisseurs qui les construisaient. Et là, non, on ne peut pas les construire en début de partie. Et c'est de développer des réseaux commerciaux, donc des caravanes commerciales avec d'autres cités, qui font que suivant, au fur et à mesure du passage, ça crée une route. Je trouve ça incroyable. Ouais. Non, mais c'est fou. Et visuellement, on le voit à chaque passage, ouais, la route qui devient... Et du coup, tu crées, tu dis, bon, bah, à qui je vais commercer? Bah, du coup, ça devient stratégique en début de partie pour te faire un réseau routier. Exactement. Et je trouve que d'aller si précisément dans la micro-gestion, je trouve ça extrêmement brillant.
Moi, je vais revenir. On se moque, enfin, tu te moquais de l'appellation Sidmeyer. Mais pour dire que quand même, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que ce Civilization 6 reprend la doctrine de Sidmeyer quand on fait une suite de jeux. Parce que la doctrine de Sidmeyer, c'est les 33-33-33. C'est-à-dire qu'on garde un tiers. Du jeu précédent, des éléments du jeu précédent, on fait évoluer un tiers des autres éléments et un tiers de nouveautés en fait. Et donc on est vraiment sur cette formule là par rapport aux civilisations précédentes.
Parce que en février dernier ils ont annoncé qu'ils avaient vendu 33 millions de jeux civilisation. Je trouve ça très marrant.
Mais et pour revenir, parce que moi j'avais eu la chance, le privilège de rencontrer le monsieur l'année dernière à propos d'un jeu un peu mineur, hein, qui était Starship par Firaxis, mais sur lequel il avait bossé, c'était un 4X spatial.
Beyond
Earth, c'était une évolution de civilisation. Mais là, Starship, c'était un petit jeu plutôt de stratégie, en fait, pour le coup. Et en fait, il y avait ce truc que j'avais demandé, c'est le One More Turn. C'est quoi la recette du One More Turn? Ce qu'il m'avait expliqué, c'est ils font en sorte que le joueur ne cesse d'anticiper ce qui va se passer le tour suivant et celui d'après. Et il n'y a jamais un moment où plus rien n'est sur le point d'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a toujours 4 ou 5 bonnes raisons de vouloir découvrir ce qui va se passer le tour suivant. Et puis un tour, c'est pas bien long, c'est juste un tour, c'est 5 minutes, enfin on sait bien.
Ça peut durer plus longtemps.
Bah oui, quand
tu fais des grandes cartes avec toutes les civilisations, ça dure plus longtemps.
Plus ça dure,
meilleur c'est.
Mais c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'ils ont aussi tellement de paramètres, en plus avec un nouvel arbre, celui des dogmes, et à découvrir, que forcément, quand tu appuies sur tour suivant, tu sais qu'il y aura, t'auras soit une nouvelle unité, soit une nouvelle science découverte, soit il y a forcément 3 ou 4 trucs qui vont évoluer à ton tour, et tu sais que tu en as pour des centaines. Enfin, combien de tours fait une partie, je ne sais pas, j'ai pas calculé, mais
ça va jusqu'en 2050, c'est je sais plus en nombre de tours.
C'est monstrueux. Enfin, c'est franchement des dizaines d'heures, ne serait-ce que pour une seule partie. Et il m'avait dit, et c'est juste parce que ça rejoint quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est en fait sur comment ils voient l'intérêt même de leur jeu, c'est de faire réfléchir le joueur, en fait, de faire penser le joueur. Il dit que plus le joueur réfléchit, plus il planifie ses actions, plus il imagine ce qui va arriver, plus il est dans le jeu. Plus nous arrivons à mettre le joueur dans la peau d'un pirate ou d'un roi, loin de ses préoccupations quotidiennes, plus nous nous approchons de l'essence même des jeux vidéo. Nous voulons que le joueur ait ce sentiment que ce sont ses décisions qui font avancer l'histoire. Quand il retourne sur sa partie, il sait qu'aucun autre joueur n'a joué exactement au même jeu. Il est la première personne à avoir vécu cette histoire.
Exactement.
Et c'est ça, avec tous ces paramètres, avec toutes ces choses qui... En fait, c'est pas seulement le fait d'avoir une carte random à chaque fois. C'est pas ça qui rend la partie unique. C'est que chaque décision que tu prends influe sur le reste du jeu. Mmh. Et c'est vrai, ça qui est magique.
Même quand tu pars, moi généralement, quand je commence une partie, j'ai déjà une vague idée. Je dis bon, là, je vais commencer une partie, je vais viser telle victoire. Donc dès le début, je m'oriente assez vite vers tel ou tel. Et t'as beau te dire bon, je vais faire comme ça, ça va forcément pas se passer comme ça. Parce que les barbares, parce que la reine Elisabeth, c'est Victoria dans celui-là.
C'est vrai que les débuts de partie sont durs, hein. C'est rude, hein. Les barbares, ils sont méchants.
Moi, j'ai fait une partie il n'y a pas longtemps où j'avais la chance d'avoir fait ma capitale un petit peu trop près de Madrid. C'est le roi Philippe, je crois, d'Espagne, qui joue dans Civilization 6, qui a fâcheuse tendance à déclarer la guerre un petit peu facilement.
Comme ça.
Il m'a fait la guerre, mais je sais pas, des guerres qui ont duré 100 ans tous les 200 ans, c'était l'enfer. Mais je dis, mais il faut. Enfin,
c'est toi, t'étais mais... avec ta victoire diplomatique.
Oui, ou... Mais enfin, calmez-vous, Philippe, voyons. Et lui, bah, mais tiens, je t'envoie des tanks. Bah non, quand même. Donc, forcément, ça se passe jamais.
Regardez une route commerciale.
Mais oui, allez, soyons amis, s'il vous plaît. Non, oh, bah. Et par contre, quelques petits points. Moi, je trouve que le jeu tel qu'il est actuellement, l'IA souffre de temps en temps quand même. Il y a encore, je pense, rien de grave, puisque ce sont des choses qui peuvent se régler, peuvent se patcher. Mais de temps en temps, voilà, il y a encore des... On ne comprend pas très bien la réaction de certains autres dirigeants qui, d'un seul coup, oh, je vous dénonce parce que pff, un truc qui s'est passé il y a 10 000 ans. Tu fais, non, mais voilà, on va se calmer tout de suite. L'IA, de temps en temps, patauge un petit peu, mais...
Mais moi, je trouve que c'est l'une des grandes faiblesses du jeu, c'est qu'il est pas assez... Enfin, pour moi, il y en a deux dans ce... Bon, trois. Bon, après, un petit trois. Je trouve que les merveilles... Alors, moi, j'ai toujours aimé construire des merveilles. Alors, ça, c'est un détail, mais j'ai toujours aimé construire les merveilles. Je trouve qu'elles sont pas très, très bien mises en valeur dans le jeu. Ah ouais, je trouve qu'elles sont pas...
Moi, je me fais griller par les autres, ça m'énerve.
Et je trouve que leur animation...
Ça met 80 tours à arriver, et au 75e tour, systématiquement, il y a la civilisation d'à côté qui la sort, et moi, je me retrouve avec un placement vide à côté de ma ville, ça m'énerve,
Je trouve que leur animation, en fait, elle est pas très... C'est pas très réussi, quoi. Ça pourrait être un peu plus somptueux.
Moi, je trouve difficile.
C'est ça. Alors, c'est ensuite, c'est les relations. Je trouve que les relations avec les autres chefs d'État, avec les autres civilisations, sont relativement pauvres, en fait. Je trouve que c'est un peu... triste, c'est-à-dire que ça, finalement il n'y a pas grand choix, alors que les relations diplomatiques d'État à État sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus perverses. Je sais pas, on pourrait imaginer par exemple d'être soudoyé par un autre chef d'État pour pouvoir mener une guerre. Je trouve que c'est un peu rigide, quoi. C'était, ce côté-là, c'est un peu triste et un peu morne, quoi. Ils sont pas foulés,
c'était,
quoi, de
Gods
ce côté-là.
And Kings, justement, le premier DLC de Civ 5 qui apportait la victoire diplomatique, enfin qui où tu avais une vraie victoire diplomatique qui était compliquée. Il fallait vraiment hyper bien gérer ta diplomatie, et où à la fin il y avait un système de la création des Nations Unies où il y avait des votes tous les X tours.
Ça, c'était intéressant.
Et ça, je trouve que voilà, l'absence de la victoire diplomatique, et effectivement la diplomatie qui a été un peu mise de côté. Ouais. Je suis persuadée qu'ils nous feront un très beau DLC d'ici quelques mois avec la diplomatie. Mais c'est ce qui manque un petit peu là.
Et puis la deuxième chose que je trouve
non, c'est
que... La troisième, pardon. la troisième, c'est je trouve que le jeu manque un peu... En fait, il manque un peu de prise avec la réalité, quoi. C'est-à-dire, ça rejoint un petit peu ce que je disais. Je trouve que les relations diplomatiques sont pas assez, comment dire, fines, sont pas assez souples. Et je trouve qu'il manque d'espèces d'enjeux. Bah, aujourd'hui, on parle, par exemple, de la crise des réfugiés, par exemple. C'est quelque chose qu'ils auraient pu... Enfin, je trouve qui est assez intéressant, qui touche effectivement sur un plan géopolitique, qui touche beaucoup de pays. C'est quelque chose qui aurait pu titiller leur attention, l'attention des créateurs, qui aurait pu mettre ça dans le jeu, par exemple. Voilà, comment tu fais pour gérer une crise, je sais pas, une crise migratoire.
Ils sont américains.
J'ai vu quelques personnes qui disaient aussi que ça aurait été bien, par exemple, d'implémenter quelque chose comme le réchauffement climatique avec les frontières. Enfin, les rives qui changent, le niveau de l'eau qui monte et au fur et à mesure du temps.
C'est des bonnes pistes.
Et je pense que oui, c'est des choses qui sont sûrement faisables et qui rajouteraient dans le jeu.
Je suis sûr que ce soit un jeu particulièrement politique, Civilization.
Tu touches à un point assez sensible parce que, en tout cas, sur les premiers Civilizations à l'époque, il y a eu des longues études faites pour. Voilà, où le modèle de la société idéale était quand même le modèle capitaliste, cette démocratie américaine qu'on connaît tous.
Jeu qui est forcément politique, même sans le vouloir, puisque tu reprends des personnages...
L'idéal géopolitique, l'idéal économique, l'idéal politique tout simple, c'est, en tout cas sur les premières civilisations, c'était la démocratie à l'américaine.
Enfin, je vois ça plutôt comme une feuille blanche, finalement. Et puis il y a une question de domination, c'est pas très bon sentiment de dominer les autres, quel que soit là. Oui, bien sûr. Mais bon, je pense
culturel.
Ça m'étonne pas tant que ça.
On va passer parce qu'on n'a pas fini l'émission Civilization 6
Mais voilà, ça reste un jeu excellent.
Exceptionnel. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose.
Et visuellement, la refonte graphique est super.
Je trouve
ça très beau. Et les musiques, on a le temps. Les musiques sont géniales. Oh là là.
On a le temps de le dire au moins.
C'est
vrai. On l'a écouté un peu au début, mais on a le temps. C'est vrai que la bande originale est assez exceptionnelle. Avant de passer à Titanfall 2, on va écouter, bien sûr, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, cette semaine, je vous propose une scène de crime, mais pas n'importe quelle scène de crime. Non, vous allez voir la subtilité de la chose, et ce, grâce à CS File, une boîte que j'ai là entre les mains. CS File est un jeu signé Tobeo. C'est un jeu pour 4 à 12 joueurs à partir de 14 ans pour des parties qui vont durer une vingtaine de minutes, et c'est édité en français par Yellow. En français, oui, parce qu'ils l'ont traduit, c'est un jeu qui nous vient d'Asie. Cela veut dire que c'est un jeu un peu subtil, étonnant, frais, presque nouveau, vous allez voir. Que nous propose CS File ? Eh bien, il y a eu un meurtre. Il y a un meurtre terrifiant, et vous allez mener l'enquête et vous allez tenter de deviner qui est le coupable. Il y a un émetteur et des récepteurs. Oui, il y a un médecin légiste, c'est son rôle. Lui, il connaît le criminel, il connaît l'arme du crime et des indices. Mais il va devoir aiguiller ses camarades sans le moindre mot, sans parler. Vous allez voir comment, vous allez voir pourquoi. Parce que parmi tous les joueurs à la table, il n'y a que des enquêteurs. Or, l'un d'eux est un criminel. Oui, mon cher Erwan, le crime atroce a été commis par un flic. Donc lui, il va devoir faire porter les soupçons sur un autre joueur autour de la table, pendant que les autres vont tenter de deviner qui est le vrai coupable, tout en essayant de s'innocenter, parce qu'ils ne sont pas coupables, ils ne vont pas se faire accuser pour rien. Voilà, eh oui, évidemment. Alors comment cela fonctionne ? En gros, chaque joueur va recevoir des tuiles, 4 tuiles indices et 4 tuiles armes du crime. On va fermer les yeux, le médecin légiste va appeler le criminel, qui va ouvrir ses yeux doucement, il va pointer 2 tuiles sur la table, une arme du crime et un indice, puis il va refermer ses yeux. Et là, le médecin légiste va devoir s'inventer une petite histoire dans la tête et répondre à des questions posées par des petites tuiles qu'il va piocher au fur et à mesure de la partie. Par exemple, sur une petite tuile, il y a marqué état des vêtements de la victime. Sale, plein de sang, etc. Il va tenter, avec des petits jetons qu'il va poser sur l'élément le plus représentatif de ce qu'il imagine comme histoire par rapport aux éléments qui ont été pointés par le criminel, l'état des vêtements de la victime, sans rien dire. À partir de là, discussion autour de la table. Bien sûr, le joueur meurtrier qui a bien capté, qui a bien compris l'histoire, quand il a choisi ces deux éléments, il a essayé de trouver des éléments les plus fous, ceux qui n'ont pas de rapport ensemble, ceux qui peuvent laisser planer le doute par rapport à des éléments qui sont chez les adversaires. Enfin bref, ça a l'air un peu complexe comme ça, mais c'est très malin. Très intelligent, du vrai blabla, de la vraie tension, du vrai suspense. En plus, le médecin légiste, il s'est inventé sa propre histoire dans la tête, il vous la racontera à la fin de la partie, parfois ça part dans des trucs abracadabrants. C'est amusant, c'est fun, c'est intelligent, c'est rapide, c'est CS File Tobeo. Il faut être 4 minimum pour jouer, sinon c'est pas intéressant, jusqu'à 12, à 12 je vous expliquerai la pagaille autour de la table. En plus, à 12, il y a des rôles supplémentaires, comme des témoins, comme des complices, etc. Bref, c'est de 4 à 12, ça dure 20 minutes, ça va très vite, ça coûte moins de 35 euros, je crois autour de 33 euros dans toutes les bonnes boutiques. Ça vient d'arriver, c'est signé Tobeo, c'est chez Yellow. Et moi, monsieur Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv, les sites indispensables pour les jeux de plateau et de jeux de société, hein, quand même. J'ai eu du mal hein, pour vous informer pendant la chronique de notre ami monsieur Fall à retenir Joël et Sophie qui voulaient partir, continuer leur partie de civilisation. Vrai. C'est ça le problème quand on en parle. Hein.
Voilà, c'est, en parlant, ça donne envie. Quoi, c'est le désir vient de la parole.
Bah oui, je peux pas me lever.
Bah oui, non,
c'est comme le tabac.
J'ai pas eu le choix. Non, je suis désolé, j'ai pas eu le choix. Parce que je sais bien que quand tu vas appuyer sur tour suivant, tu vas voir ta nouvelle capitale, machin. Bon, bref. Titanfall 2, parce que oui, il faut en parler. Il faut en parler de Titanfall 2, de Respawn Entertainment. Titanfall 2.
But what truly separates the pilot from all the grunts and machines of the battlefield is the bond between a pilot and a Titan. When linked to a Titan, a pilot can only be stopped by overwhelming force. Or an equal.
Titanfall 2 de Respawn Entertainment. Respawn, fondé en 2010 par Jason West et Vince Zampella. Zampella, oui. C'est les deux boss d'Infinity Ward, donc ceux qui avaient créé la licence Call of Duty et qui s'étaient barrés parce qu'ils étaient un peu en bisbille hein, avec Activision à l'époque. Voilà. Et donc ils ont fondé Respawn et le premier jeu de Respawn, c'était Titanfall, il y a déjà quelques années.
Deux ans. Ouais.
Voilà. C'était un jeu purement multi. Moi, ce qui m'avait alors, un petit peu laissé sur le carreau.
Il y avait quelques petites il y avait un mode campagne qui consistait en quelques missions, vagues missions, quoi. Mais c'était pas foulé, il n'y avait pas vraiment d'histoire.
Oui, voilà, c'est ça. Après, bon, moi, j'avais bien trippé les quelques parties en termes de gameplay, mais vu que sur les FPS multi, j'ai une légère tendance à mourir, hein, voilà. Soyons clairs, soyons clairs. Je ne me suis jamais caché de mon niveau réel en FPS multi. Nous avons notre spécialiste ici. Voilà. Et toi, tu aimes mourir dans les jeux, donc c'est
pour ça. Non, mais j'ai aussi triomphé.
Donc Titanfall 2, qu'est-ce que tu en as pensé?
Par rapport au premier, effectivement, le premier où la campagne était un peu sacrifiée aux dépens du multijoueur. Là, ils ont vraiment, pour le coup, décidé de faire un vrai mode campagne où on va mettre en scène à la fois un soldat qui s'appelle Cooper, qui est charismatique comme une huître, et son
huître est un niveau au-dessus quand même.
Voilà. alors comme une coquille d'huître. Voilà. Comme une coquille d'huître. Et donc une campagne où on va incarner ce héros et son méca.
Sachant que le méca parle plus que le héros, hein, quand même. Voilà.
Oui, c'est... Mais bon, en même temps, c'est peut-être pas plus mal. Et la campagne, elle est assez courte, elle est assez agréable. Il y a vraiment un effort qui a été fait, par exemple, je trouve, dessus. Il y a un petit côté un peu plateforme où on va devoir courir sur les murs. C'est plutôt pas mal. Les cartes, parce qu'on on va progresser. Alors, je passe l'histoire parce que l'histoire est pas très intéressante. Il s'agit de on combat des mercenaires. C'est pas non, mais l'histoire est pas folichonne.
On combat l'IMC.
Voilà l'IMC.
Ouais, c'est pas l'indice de masse corporelle. Non. C'est l'Interstellar Manufacturing Corporation. Voilà.
Mais cela dit, c'est plutôt une bonne surprise, parce qu'il y a quand même les environnements, les niveaux sont plutôt grands, donc qui permettent un petit peu de les appréhender de manière différente. Il y a aussi en fait des environnements que j'ai trouvé chouettes. Par exemple, il y a un niveau de production de, je sais pas trop quoi, de maison, enfin, ou de robot, bref, mais qui est plutôt assez impressionnant. On se retrouve dans des espèces de grandes caves, et c'est vraiment pas mal du tout. Et finalement, je trouve que il y a aussi des petites idées de game design, qui sont pas mal. Mais finalement, j'aime bien. Ils ont réussi en fait à faire quelque chose, mais qu'ils n'ont pas du tout exploité, c'est-à-dire de nouer une espèce d'interaction entre le personnage et ce robot, ce méca. Je trouve que de temps en temps, il y a un petit coup, on sourit ou on est vaguement ému. Et je trouve qu'ils auraient dû vraiment, non mais c'est vrai, vaguement. Hein. Et ils auraient vraiment dû creuser cet aspect-là, c'est-à-dire de la relation homme-machine. Ouais, mais on sent qu'il y a quelqu'un derrière du marketing qui leur a fait non, s'il te plaît, là, ça fait pas ton truc.
C'est un peu trop compliqué.
Voilà, c'est trop compliqué, c'est trop intello. Les joueurs, ils veulent bang bang tout ça. Donc on sent qu'ils sont un petit peu réfrénés là-dessus.
Et je pense qu'il y aurait pu y avoir aussi avec les débats d'aujourd'hui sur intelligence artificielle. On sait qu'on c'est ça qu'ils mettent en jeu aussi avec ce méca qui possède sa propre intelligence. Ils auraient pu faire un truc sur effectivement sur l'évolution de la machine et tout ça. On en est à des années-lumière parce que c'est.
Mais je pense qu'ils auraient bien voulu le faire.
Ouais,
mais bon, je pense à mon avis parce qu'on sent que vraiment dans la relation qui se développe entre Jack Cooper et ses d'ailleurs je me rappelle
BT
plus.
BT 72-74.
Voilà. Et on sent que ça pourrait. On sent que quelque chose de plus. Aurait pu, Le multijoueur, alors j'ai lu ça et là. Alors le multijoueur, moi je suis pas convaincu en fait par celui-ci parce que je le trouve un peu chaotique. Alors donc on joue effectivement, il y a ce plaisir de jouer en fait à deux échelles parce qu'on joue effectivement à l'échelle du soldat et celui du méca. Et moi je suis pas, je trouve que le jeu est parfois le multi est parfois un peu confus. On a parfois du mal, je trouve que l'action n'est pas toujours très très lisible. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont rajouté l'espèce de personnages non joueurs, des personnages non joueurs qu'on va devoir affronter en plus des personnages joueurs, je trouve ça pas mal. Il y a des petites nouveautés, il y a comme un grappin. Alors le grappin, ça fait c'est moins Batman que Lost Planet, je sais pas si vous vous rappelez, ça rappelle un petit peu Lost Planet où on se battait contre
je me rappelle vaguement, j'ai des images qui reviennent.
Ah non, je me rappelle, j'ai passé des nuits dessus,
j'ai
vraiment
pour 5 euros dans une brocante.
Et où effectivement on affrontait des grands insectoïdes ce grappin pas mal, voilà. Enfin, moi, je suis pas convaincu par le multi encore, mais bon, reste. En tout cas, pour la campagne qui est courte, moi, j'ai plutôt pris du plaisir et je trouve bon. C'est pas mal, quoi. C'est pas. pas le FPS qui m'a le plus marqué cette année.
Non, voilà. Surtout, on en parlera, ouais, on en parlera la semaine prochaine. Il y a aussi Battlefield 1 dans les sorties de fin d'année.
Le jeu qui... est sorti dans une indifférence générale. Quoi. Ça, j'ai jamais vu ça. Le jeu s'est un peu planté en Angleterre d'après les premiers chiffres qui viennent de tomber. Mais j'ai un peu, je pense pas,
le fait est que
pas sûr qu'il y aura
fout,
un Titanfall 3.
Ouais, c'est... Après, moi, j'avoue que ce qui m'a fait plaisir dans ce Titanfall 2, c'est justement la campagne solo, parce que pour le coup, elle, qui est... Alors, en termes de scénario, c'est horrible, hein, c'est vraiment atroce. Mais au moins, ça m'a permis de justement avoir ces deux échelles, de, tantôt à l'intérieur du robot, ou alors avec, en tant que pilote avec ses turboréacteurs, il y a le double saut, il y a le fait de marcher sur les murs, et il y a le côté où il y a, je trouve qu'il y a un body awareness qui est vraiment pas mal, où en fait, c'est toujours problématique quand il y a du FPS et de la plateforme, c'est avoir conscience de son corps, et je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on a arrive à se débrouiller, on arrive à peu près aller et à faire les parcours qu'on avait prévu en regardant le niveau. Et c'est vrai que vu que j'étais un peu une quiche en multijoueur, le premier qui proposait déjà le fait de courir sur les murs, et c'était ça qui était assez marrant, j'avais pas trop profité, et là j'aime bien. Ça... Après voilà, je trouve ça un côté... très apéritif, entre guillemets, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, mais il y a un côté, voilà, un petit plaisir comme ça, mais ça...
Non, il est pas mal. Enfin,
c'est
qu'il
jamais,
reste
jamais à full price, quoi. Enfin, jamais à 70 euros.
Combats...
Je sais pas s'il vaut 70 euros.
Voilà. Multijoueur est bien, il est fluide, il est rapide, il est nerveux. C'est pas mal. Je trouve que c'est...
Titanfall 2 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, je crois. PC ou pas PC?
Et je crois que la dernière...
Je sais plus. Enfin bon, au moins PS4 avec Xbox.
Il y a des chances.
Voilà, c'est fini cette semaine pour les jeux vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, à laquelle je ne sais pas répondre cette semaine, je vais essayer de réfléchir pendant que vous répondez. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Sophie?
Je joue quand même. Parce que moi, je voulais parler d'un jeu qui, à mon avis, est passé complètement inaperçu sur DS. Est très mal ciblé, très mal communiqué, qui s'appelle Disney Magical World 2, qui, comme son nom l'indique, est la suite de Disney Magical World, premier du nom.
Le bien connu.
Qui est justement une série de jeux absolument pas connus dont je voulais parler, parce qu'en fait, ce sont de bons jeux, très bons jeux même, qui sont ciblés pour enfants, voire même pour filles, avec un design assez affreux au premier abord. Et je pense, j'ai vu aucune pub à la télé. Et en fait, c'est très très bien, c'est pas du tout ce dont ça a l'air. C'est plus une espèce de jeu mi-Animal Crossing, mi-MMORPG, hein, ce qui est un petit peu bizarre, Donc c'est, t'arrives dans le monde de Disney, donc j'englobe, hein, les deux jeux sont basés exactement sur la même chose, c'est juste les mondes qui changent, hein. Donc si vous le trouvez le premier dans des bacs à soldes dans les magasins, franchement, si vous avez des enfants, foncez, ou même moi, c'est moi qui joue, hein, même si vous n'avez pas d'enfants. Tu incarnes un personnage, donc tu peux choisir d'incarner un garçon, une fille, donc ça a des composantes de RPG, hein. Et tu te retrouves dans le monde magique de Disney, tu rencontres tous les personnages de Disney, ça c'est quand même super cool. Un côté Animal Crossing, c'est que tu dois gérer ta maison, tu dois aussi gérer un restaurant, la décoration, les plats que tu fais, tu gagnes des points, selon si ton thème est concordant, tu gagnes des points, tu gagnes de l'argent, cet argent tu peux t'en servir pour acheter des nouveaux meubles, des nouveaux habits que tu débloques en faisant des aventures, et c'est ça, il y a tout un passage aventure qui est vraiment un côté action RPG où tu dois faire du crafter, enfin récupérer tu dois crafter tes vêtements, des baguettes magiques, il y a vraiment un système de points de RPG, c'est un jeu complet qui est très très sympa, tu peux jouer à plusieurs via des codes amis, donc pour les enfants c'est rigolo de s'échanger des objets et tout ça.
Alors quand t'es grand, les codes amis, ça t'amuse plus trop de les
c'est ça. Mais enfin moi c'était hyper étonné quand j'ai joué au premier, je m'attendais pas du tout à ça, là le deuxième j'ai sauté dessus quand il arrivait, j'ai trouvé ça super cool, et voilà, Disney Magical World 1 et 2, c'est...
Partant de quel âge,
jeune lecteur. Pour les enfants qui lisent pas, faut lui expliquer vite fait, c'est quand même assez facile à prendre en main. Moi je trouve ça vraiment bien, même pour les grands, introduction au RPG, au jeu, c'est en monde ouvert, je trouve ça super bien, voilà.
Cool. Corentin.
pas énormément de choses, mais malgré tout, il y a eu le dernier Chroma numéro 8 qui est sorti. Donc Chroma, pour les 2-3 au fond qui ne suivent pas, c'est la chronique cinéma de Karim Debbache qui avait qui avait commencé sur jeuxvideo.com avec Crossed, où il parlait du jeu vidéo et du cinéma, du rapport que ça pouvait avoir, soit dans les adaptations, soit dans les films qui sont inspirés de mécaniques. Et là, donc, le 8e épisode parle de Piège à Hong Kong, ou Knock Off en bon français.
Avec Knock Off, non ?
Non, avec Jean-Claude Van Damme.
Son Vidocq, il était très très bien.
Oui, absolument. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec Chroma, en fait, c'est qu'il va nous parler de films qui ne sont pas forcément très bien, mais il va nous les présenter sous un jour qui vont nous faire réfléchir sur le cinéma en tant que média. Et du coup, c'est toujours très intéressant, en l'occurrence, pour Knock Off. C'est un très mauvais film. Mais il va nous expliquer tout le contexte autour de ce film-là, notamment la tentative d'appropriation du cinéma hongkongais par Hollywood au moment du transfert de la souveraineté d'Hong Kong par... la récupération de Hong Kong par les Chinois, où du coup il y a eu toute l'esthétique du film hongkongais qui a été récupérée par Hollywood, qu'on a pu revoir ensuite dans Matrix ou des trucs comme ça.
Avec John Woo.
John Woo notamment, qui en est un des exemples les plus flagrants. Et donc dans ce film-là, en fait, c'est une greffe qui s'est mal passée entre un réalisateur, alors j'ai oublié le nom du réalisateur, mais il est très connu apparemment dans le cinéma de Hong Kong, et Hollywood, où le mec, en fait, Karim Debbache nous révèle que, en fait, ce film est une espèce de petite vengeance personnelle envers ses producteurs américains qui lui ont pas laissé faire ce qu'il voulait. Et c'est super intéressant. En plus, Karim Debbache fait les choses très bien, c'est très bien réalisé, et c'est très très drôle. C'est très très bien fait, je vous recommande. Et si vous n'avez pas vu les autres, allez regarder tout, c'est sur Dailymotion.
Joël.
Ah, moi, depuis, je suis allé voir un film et... Bon, là, c'est pour les auditeurs, ils vont pas, ça consiste à faire des trucs comme ça. Voilà. Non, je fais des mouvements avec les mains comme ça. Non, je vais voir Doctor Strange, quoi. Ah bon, bref. Non, mais si, voilà. Il s'entraîne, il fait des gestes comme ça. Voilà. Et puis voilà, et puis il crée des mondes parallèles, des trucs, machin. C'est vrai. Voilà, donc voilà, c'était sympa. C'est avec 4 acteurs que j'adore. Tilda Swinton, Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor et Mads Mikkelsen. Bon voilà, ça se voit,
c'est
bien.
Ah oui, c'est
bien. Enfin, oui, du bon niveau. Là.
Mais j'en espérais rien, et en fait, plus j'en entends parler, plus j'ai envie de le voir.
C'est bien, c'est bien. C'est
bien. Oreille, Doctor Strange.
Juste pour dire que moi, j'ai commencé à utiliser le Cubetto. Le Cubetto, qu'est-ce que c'est ? Parce que je l'ai reçu là. Le Cubetto, c'était un truc que j'ai pris sur Kickstarter. J'ai dépensé une fortune, j'ai vu le truc, je crois que j'ai cramé, mais c'était un truc assez... je crois que j'ai cramé 300$, machin, c'était horrible. Non, écoute, c'est un petit cube... un robot que tu programmes en mettant des flèches pour tu dois avancer d'une case, tourner sur toi et tout ça. Et toutes les pièces sont en bois, c'est-à-dire les flèches, tu poses sur un plateau en bois, tu poses des petites flèches en bois et tu peux même définir une fonction que tu peux appeler dans ta séquence de commandes. Et après, tu poses le Cubetto sur des tapis qui racontent des histoires et tu dois, avec des enfants, lui faire faire un parcours et tout ça. C'est absolument génial.
J'ai vu ce truc et devant le prix exorbitant, j'ai un peu pleuré.
Moi, j'ai un peu pleuré. Non, en fait, je sais pas.
Non.
Ça a été un pur achat compulsif de je sais pas, je tu vois, je
en fait,
c'est un premier contact avec la programmation et c'est pour les enfants à partir de 4 ans, ça s'utilise quoi. Et c'est assez fascinant de voir comment les enfants appréhendent le truc sans faire des choses compliquées évidemment, mais voilà, c'est des petites pièces en bois, enfin c'est vraiment un jouet et c'est vraiment de l'informatique.
Ça m'intéresse, tu m'en on en reparle.
Voilà, c'est fini pour Silence on joue et on se retrouve ici même sur No Life, sur Libération et sur les internets la semaine prochaine. Ciao.